la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 12 mars 2021. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. La Confédération africaine de football a un nouveau président. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu sans bavure. Nouvel enlèvement massif d'élèves au Nigeria. Cela s'est passé dans l'état de Kaduna, dans le nord. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, inculpé pour corruption, devra désormais se présenter à la police 3 fois par semaine. Le président Joe Biden lance une offensive avec les alliés américains du Pacifique pour contrer l'influence chinoise en Asie du Sud-Est. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. C'était sans surprise, le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu comme prévu et par acclamation président de la Confédération africaine de football à Rabat. Il était le seul candidat. Le point avec Bagasikura.
Oui, ce fut un plébiscite, les autres candidats s'étant rangés derrière lui sous l'impulsion de la FIFA. L'homme d'affaires patron du club des Mamelodi Sundowns s'est levé, a baissé son masque et a salué l'assemblée dans un costume bleu pétrole. Motsepe a brièvement exprimé sa gratitude pour ce très grand honneur. Il a promis de travailler dans l'unité, le maître mot de la journée, martelé également par le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Car le choix de ce milliardaire très occupé, méconnu et parrainé par le patron de la FIFA fait grincer des dents sur le continent. De nombreux observateurs y décèlent une ingérence et des relents de colonialisme. Mais aucune voix dissonante ne s'est exprimée durant cette 43e Assemblée générale de la CAF. Dans son allocution liminaire, Infantino a défendu la version de la FIFA de cette drôle d'élection. Elle ne veut pas contrôler la CAF, mais favoriser l'unité. Les 3 autres candidats déclarés à l'automne, Augustin Senghor du Sénégal, Ahmed Yahia de la Mauritanie et Jacques Hanouma de Côte d'Ivoire, se sont tous retirés dans la quinzaine précédente de scrutin contre la promesse de poste respectivement de premier et deuxième vice-président et de conseiller de Motsepe.
Au Nigeria, des hommes armés ont encore attaqué hier soir une école dans le nord du pays. Selon la police locale et des habitants, ils ont enlevé plusieurs élèves dont le nombre exact reste à confirmer. Les précisions de John Lyndon.
Des hommes armés ont attaqué hier soir un établissement secondaire de la localité de Mando dans l'état de Kaduna. Environ 300 élèves se trouvaient dans cette école, mais le nombre d'étudiants kidnappés est resté flou ce matin. Le porte-parole de la police de Kaduna, Mohamed Jalig, a dit qu'il y a eu un kidnapping à l'école de formation des eaux et forêts, mais n'a pas précisé le nombre d'élèves enlevés. La police et l'armée essaient de les localiser et de les secourir, a-t-il ajouté. Le ministre de l'Intérieur de l'État de Kaduna, Samuel Arouan, s'est rendu sur place. Il a confirmé l'enlèvement sans donner des chiffres, disant qu'une enquête est ouverte. Il s'agit de la 4e attaque d'une école en moins de 3 mois dans le nord-ouest et le centre du pays où sévissent des groupes criminels qui pratiquent des enlèvements contre rançon depuis plusieurs années.
En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, inculpé jeudi pour corruption et placé sous contrôle judiciaire, devra désormais se présenter au commissariat 3 fois par semaine. Les explications de Claire Morin-Jubourg.
L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz doit désormais se présenter 3 fois par semaine à la police et s'abstenir de quitter la capitale Nouakchott sans autorisation du juge d'instruction. L'un des avocats de l'ex-président, Taleb Kiar Ould Mohamed Mouloud, s'est insurgé contre cette procédure judiciaire qui, selon lui, est contraire à la Constitution et qui menace l'avenir de la démocratie et de la paix sociale. L'ex-président Aziz a été accueilli à son domicile hier soir par plusieurs dizaines de ses partisans. La justice mauritanienne veut faire la lumière sur des faits présumés de corruption et de détournement de fonds publics pendant ses années au pouvoir, notamment la gestion des revenus pétroliers et la vente de domaines de l'État. Cette inculpation représente une nouvelle étape de la chute de M. Aziz sous son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dont il avait pourtant préparé l'accession à la présidence. M. Aziz crie au règlement de compte, son successeur invoque l'indépendance de la justice.
Élection présidentielle au Tchad, l'opposant Brice Maimong Gendbaï vient d'annoncer son retrait de la course. Par ailleurs, plusieurs partis politiques de l'opposition, organisations de la société civile et quelques leaders religieux appellent à une marche pacifique demain samedi sur l'ensemble du territoire national. Un militant des droits de l'homme a été arrêté jeudi à Brazzaville à 10 jours de l'élection présidentielle en République du Congo. Il est accusé de vouloir déstabiliser le processus électoral. Il s'agit du docteur Alexandre Ibaka Zabana, 77 ans, coordonnateur de la plateforme congolaise des ONG des droits humains. Trésor Zila de l'Observatoire congolais des droits de l'homme parle d'un enlèvement parce qu'il a été arrêté par des hommes non identifiés. Nous demandons sa libération immédiate, a-t-il ajouté. Les autorités équato-guinéennes ont rendu ce vendredi un hommage aux victimes des explosions qui ont ravagé dimanche un camp militaire à Bata et qui a fait 107 morts et 615 blessés. Cet accident pénible causé par l'explosion de dynamite et d'autres explosifs a montré que la paix est très fragile et peut être rompue à tout moment par le comportement irresponsable, ignorant et incompétent de nos concitoyens, a déploré le président Teodoro Obiangema. Le gouvernement a débloqué 10 milliards de francs CFA, soit environ 15 millions d'euros en faveur des victimes, a rappelé le président. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé vendredi le prolongement pour 60 jours du couvre-feu nocturne en vigueur depuis près d'un an. Le pays est confronté à une troisième vague d'infection au Covid. Tous les bars, restaurants et autres établissements ouverts au public devront fermer avant 21 heures, a déclaré M. Kenyatta dans un discours prononcé un an après la détection du premier cas de COVID-19 dans le pays. Le président a également annoncé une nouvelle interdiction des rassemblements politiques pour 30 jours. Le Kenya a enregistré près de 112 000 cas de COVID-19 pour 1901 décès. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande à l'Égypte de cesser d'abuser de sa législation antiterroriste pour museler les opposants au régime, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Le Conseil exige la libération des journalistes et militants des droits humains en détention. Il a également exigé des autorités égyptiennes de faire cesser les longues périodes de détention préventive infligées aux défenseurs des droits et aux militants de la société civile au nom de la législation contre le terrorisme.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un sommet virtuel a eu lieu ce vendredi entre le président américain Joe Biden et les premiers ministres australiens, indiens et japonais. Ils ont lancé une initiative commune pour renforcer la production de vaccins contre le COVID-19 en Asie du Sud-Est, première étape d'une offensive diplomatique contre la Chine. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
C'est la première fois que le Quad, cette alliance informelle née dans les années 2000 pour contrebalancer la montée en puissance de la Chine, s'est réunie au plus haut niveau. C'est aussi le premier sommet multilatéral que j'ai la chance d'organiser en tant que président, a dit Joe Biden à l'ouverture de la visioconférence. Nous lançons un nouveau partenariat ambitieux pour doper la production de vaccins au bénéfice du monde entier et notamment des vaccinations dans toute la région Indo-Pacifique, a déclaré Joe Biden. Il s'agit de répondre aux graves pénuries en Asie du Sud-Est, a expliqué à des journalistes un haut responsable américain, en nouant des partenariats qui permettront une augmentation drastique des capacités de production de vaccins jusqu'à 1 milliard en 2022. Cet effort s'appuiera en premier lieu sur la production en Inde et sur le vaccin américain Johnson & Johnson. Avec cette initiative, le président américain s'engage à son tour dans la diplomatie du vaccin. Une manière aussi de contenir l'activisme de la Chine dans la région, la Chine qui y multiplie les livraisons de doses de vaccins contre le COVID-19.
L'Organisation mondiale de la santé a donné vendredi son homologation au vaccin contre le Covid à dose unique du géant américain Johnson & Johnson. Chaque nouvel outil sûr et efficace contre le COVID-19 est un pas de plus vers la maîtrise de la pandémie, a commenté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'OMS a déjà homologué le vaccin de Pfizer-BioNTech ainsi que celui d'AstraZeneca-Oxford dans sa version fabriquée en Inde et sa version produite en Corée du Sud. Le gouvernement italien annonce vendredi le reconfinement d'une grande partie du pays à partir de lundi jusqu'au 6 avril, entraînant la fermeture des écoles, bars et restaurants afin d'endiguer une troisième vague épidémique menaçant de saturer les hôpitaux. L'Italie, qui a passé cette semaine la barre des 100 000 morts dus à la pandémie, enregistre une forte hausse des contaminations et des décès dus en grande partie aux variants britanniques. Jeudi, les autorités ont fait état de 26 000 nouveaux cas et 373 morts en 24 heures. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par John Lindon.
Au Bénin, l'indice des prix à la production des produits vivriers a enregistré une légère hausse de 0,3% au quatrième trimestre 2020, comparé au trimestre précédent, selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique basé à Cotonou. En République démocratique du Congo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu un mémorandum de 60 pages de la Fédération des entreprises du Congo relatif aux propositions d'action du gouvernement en faveur du secteur privé. Le document contient notamment les préoccupations des entreprises dans les secteurs essentiels, notamment la fiscalité et l'agriculture. Les entreprises plaident aussi pour la nomination des ministres compétents et qui maîtrisent le secteur. Le plan de relance de l'économie américaine va rayonner bien au-delà des frontières des États-Unis, mais les risques d'inflation et d'un resserrement brutal des taux d'intérêt ne sont pas exclus, disent les experts. Avec une injection de 1900 milliards de dollars, le plan de sauvetage américain, dont le texte de loi a été signé jeudi, devrait aussi aux États-Unis dynamiser la croissance de 5 à 6 % sur 3 ans, selon une estimation préliminaire du Fonds monétaire international.
À présent, la page des sports avec Élisée Oumbati.
Bonsoir à tous. Patrice Motsepe est élu président de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain, seul candidat en lice, a été désigné par proclamation président de l'instance qui gère le foot en Afrique pendant la 43e Assemblée générale de l'organisation à Rabat. Premier Sud-Africain et le premier anglophone à occuper ce poste, le milliardaire succède au malgache Ahmad Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au foot. Une assemblée générale qui s'est tenue en présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a œuvré pour que Motsepe soit le seul candidat en lice avec les désistements de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yahia.
C'est pour moi aujourd'hui un véritable plaisir d'être ici à Rabat, au Maroc, avec vous pour ce 43e. Aujourd'hui, c'est important de mettre ensemble ces deux mots, unité et équipe. Parce que en équipe, ensemble, on gagne. Seul, on perd.
Pour relancer l'institution créée en 1957 et basée au Caire, Motsepe pourra s'appuyer sur 5 vice-présidents contre 3 sous Ahmad. Une augmentation pour assurer une meilleure représentativité des différentes composantes de la CAF. Outre l'élection du président, la CAF désignait également les membres de son gouvernement et de ses représentants au Conseil de la FIFA. Il faut noter que le comité exécutif de la CAF aura déjà un premier dossier à régler. La CAN des moins de 17 ans que la Zambie demande à organiser. L'instance fêtière a annoncé l'annulation de cette compétition à quelques jours de son coup d'envoi suite à la fermeture de l'espace aérien marocain avec plusieurs pays qualifiés pour cause de Covid-19. La Zambie, qui fait partie des qualifiés, a écrit à la CAF en lui proposant d'organiser la compétition à la place du Maroc. On prend la direction de l'Égypte pour dire que le Zamalek du Caire a officialisé le retour de Patrice Carteron à la tête de l'équipe de football 6 mois après son départ. Le technicien français qui vient de quitter Al Taoun succède à Jem Pacheco, limogé juste après le match disputé en championnat face à Cléopatra. Et puis pour finir, Angel Di Maria prolonge son contrat au PSG d'une année plus une seconde en option. En fin de contrat cet été, le milieu de terrain offensif de 33 ans l'a prolongé ce vendredi. En discussion depuis l'an dernier, les deux parties s'étaient mises d'accord sur le principe de poursuivre l'aventure ensemble dès la fin 2020, mais il restait quelques détails à finaliser qui ont été bouclés ces dernières heures. L'Argentin est arrivé dans le club de la capitale française en 2015.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, au lendemain de la mort du Premier ministre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, les réactions se multiplient. À Boaké, on rend hommage à cet homme politique apprécié par les jeunes et les artistes. Témoignage de certains habitants de cette ville du centre de la Côte d'Ivoire, au micro de notre correspondant Siriki Barou.
Suleiman El Château, étudiante à l'Université Alassane Ouattara en communication. Ahmed Bakayoko, c'est un grand homme. Il a de par son parcours, voilà, il a su influencer assez de personnes, notamment les jeunes. Je suis à Boaké actuellement, mais je viens d'Abidjan, précisément à Bobo. Et là, on peut se rendre compte de ces différentes réalisations. Les dames, on va dire, elles le vénèrent en fait. Elles le vénèrent, il a fait ci pour Bobo, il a fait ça. Et sincèrement, la mort du gars me fait mal parce que on sait plus qui va faire quoi pour Bobo en fait. Voilà, c'est quelqu'un, il a su mettre, on va dire, l'accent sur quoi repose, on va dire, le développement d'un pays, les jeunes. Voilà, et respect pour ça, quoi. Respect pour ça.
Ahmed Bakayoko, c'était un pilier d'abord pour la jeunesse ivoirienne. Et puis, c'était, on peut dire, un élément incontournable aussi du gouvernement. Et aussi pour nous aussi, gars, c'était un modèle aussi. Il a fait plusieurs réalisations dans des communes telles que Abobo, partout. Il était député encore tout récemment, encore donc. On peut dire que c'était un grand homme aussi, un très grand premier ministre. Il avait un charisme. Il était aimé par tout le monde, par sa bonne foi et par sa bonne humeur. Et en plus encore, c'était un très grand homme parce que s'il comprenait les autres, il aidait aussi ceux qui pouvaient aider, il aidait à réaliser des projets aussi pour toute Côte d'Ivoire.
Traoué Abiba, en tout cas, Ahmed Bakayoko, c'est un homme qui est très, très, très gentil. En tout cas, il est bien, il a fait du bien aux gens, en tout cas. Mes condoléances quoi, à sa famille, tellement découragé. Les mots me manquent, quoi, vraiment.
Il a été un homme courageux, un homme serviable. Franchement, de moi, de mon niveau, en tout cas, c'est une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Et surtout pour la jeunesse ivoirienne. Là, tout son combat était pour lutter pour la jeunesse ivoirienne. Vraiment désolé. Ça a été vraiment un coup dur pour cette jeunesse ivoirienne. Mais je ne sais pas si on pourra avoir un ministre dynamique pour pouvoir soutenir cette jeunesse encore. Vraiment, c'est les mots me manquent, quoi. C'est difficile, c'est difficile. C'est une très grande perte. Et vraiment, que son âme repose en paix. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire prospère.
Bon, son décès, là, ça me fait mal parce qu'il me plaît. Mais il est gentil, il est bon. Bon, ça me fait très mal.
C'était un homme humble, un homme gentil. Et je suis très, très généreux. C'est ce que je retiens de son parcours. Et puis, c'est un rassembleur, quoi. Je le voyais au moins comme celui qui pouvait faire que les Ivoiriens se donnent la main à la main.
C'est un homme de bien. Il a tellement aidé les enfants, les jeunes, surtout à Abidjan là-bas. Sa bonté, vraiment, moi-même, ça m'a touché. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu déçu. Mais tout ce que Dieu fait, bon, c'est le destin de la vie. Mes condoléances.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Sénégal, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce une nouvelle vague de poussière sur le pays. D'après l'ANACIM, il y aura des particules de poussière sur les régions nord, est et centre du pays, y compris donc Dakar, la capitale. Depuis plusieurs semaines, la poussière envahit Dakar par intermittence, causant des soucis aux personnes porteuses de maladies respiratoires. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Depuis quelque temps, la capitale devient grise ou poussiéreuse par moment, un aléa climatique qui a des conséquences sur les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, notamment les asthmatiques. Les enfants sont les plus vulnérables, nous dit Ibrahim Thiam, père de famille. Tous ses enfants sont asthmatiques.
Donc, nous avons pris nos précautions.
Nous avons pris nos précautions car nos enfants sont asthmatiques. La première alternative pour nous est de les garder à la maison le temps que tout redevienne normal. Je sais que cette pluie de poussière est un phénomène naturel qui va forcément passer, mais la poussière est l'ennemi des asthmatiques. Donc, toute personne qui en souffre doit faire attention. Et cela est valable pour tout le monde, car elle contient des bactéries et des germes. La poussière est nocive pour la santé. Personnellement, puisque mes enfants sont asthmatiques, nous avons pris la précaution de les isoler.
Aram est vendeuse de légumes. Son étalage est en plein air. Consciente qu'elle est très exposée, elle tente avec ses astuces de ne pas tomber malade à cause de la poussière, car elle souffre de sinusite.
La poussière est insupportable et très dangereuse pour la santé. Il faut bien nous couvrir la tête, les narines et la bouche. J'ai toujours mon écharpe sur sur la tête, mon masque en plus d'un mouchoir en tissu. Respirer cette poussière, c'est mettre sa vie en danger, car moi je souffre de maladies respiratoires.
Parole maintenant à un spécialiste. Il s'agit du docteur Mas Ndiaye. Avant de donner les bons gestes et les mesures à adopter destinées aux personnes qui souffrent de maladies respiratoires, notamment l'asthme, il parle de la dangerosité de la poussière sur leur santé.
Ce climat poussiéreux peut avoir des conséquences sur la vie de tous ces patients qui ont des maladies respiratoires chroniques. Et la bronchite chronique, surtout remarquée chez les personnes qui ont des antécédents de tabagisme. Les asthmatiques, vous savez que l'asthme, c'est une allergie chronique respiratoire qui se manifeste par une obstruction des bronches et que la personne a du mal à respirer.
En cette période où le climat poussiéreux est assez régulier, Dr Mas Ndiaye recommande aux sujets sensibles de prendre certaines précautions.
Réduire au maximum leur déplacement. Doivent, en sortant, il faudrait également que ces personnes ne fassent pas du sport durant cette période, parce que le sport également va entraîner une inhalation massive de cette poussière, surtout chez les asthmatiques. C'est le moment de respecter ce qu'on appelle le traitement de fond de l'asthme.
La vague de poussière qui enveloppe de manière récurrente Dakar cause beaucoup de soucis aux personnes atteintes de maladies respiratoires. S'il leur est recommandé de rester chez eux, certaines personnes vulnérables sont souvent obligées de s'exposer pour subvenir à leurs besoins. C'est Dina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans son premier discours aux heures de grande écoute hier soir, le président Joe Biden a marqué le premier anniversaire depuis le début des fermetures généralisées aux États-Unis suite à la pandémie de COVID-19. Un an après, il a demandé l'aide des Américains pour relever les défis à venir. Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Ça fait un an que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie mondiale. Depuis, plus de 2,6 millions de personnes en sont mortes dans le monde, dont au moins 530 000 aux États-Unis. Joe Biden, hier soir, aux heures de grande écoute.
We all lost something.
Nous avons tous perdu quelque chose. Une souffrance collective, un sacrifice collectif, une année de perte de vie et des pertes de vie pour nous tous.
Dans son premier discours hier soir, au 50e jour de son mandat, le président Joe Biden a décrit les mesures que son administration prend pour vaincre le coronavirus, notamment en dépassant son propre objectif de 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours.
En fait, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cet objectif de 100 millions de doses à mon 60e jour au pouvoir. Aucun autre pays au monde n'a fait cela.
Biden a déclaré avoir ordonné à tous les États de rendre les vaccins accessibles à tous les adultes américains d'ici le 1er mai. Mais il fait face à un certain nombre de défis, dont la méfiance de certains Américains à se faire vacciner et le gouvernement de certains États qui préfèrent ignorer les directives fédérales en matière de santé. Parmi eux, le Texas, qui a levé le port obligatoire du masque et réouvert tous les bars et restaurants.
Un masque est la chose la plus simple à faire pour sauver des vies. Parfois, cela nous divise. Les États se dressent les uns contre les autres au lieu de travailler les uns avec les autres.
Les experts sont d'accord, les opinions sont très partagées sur les vaccins et les protocoles de santé ont été causés par la politisation et la polarisation extrême du pays, en particulier pendant les premiers jours de la pandémie. Catherine Baker, doyenne de l'école de sciences politiques Harris à l'Université de Chicago.
Les gens ont reçu des messages tellement contradictoires sur la santé publique et le climat a été tellement polarisé et qu'il y a réellement un manque de confiance du public dans la science, dans les messages de la santé publique. C'est vraiment compréhensible étant donné les messages contradictoires que les gens ont entendus. C'est l'un des revers durables de ça.
Un peu plus tôt hier, Joe Biden a signé le gigantesque programme d'aide de 1900 milliards de dollars. Des millions de familles vont recevoir un chèque de 1400 dollars par personne et les chômeurs vont continuer à recevoir jusqu'en septembre 300 dollars par semaine. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat et cette semaine par la Chambre des représentants sans soutien des républicains. Kevin McCarthy est le chef de la minorité républicaine à la Chambre.
This isn't a rescue bill.
Ce n'est pas un projet de loi de sauvetage, ce n'est pas un projet de loi d'aide. C'est une longue liste de priorités de gauche qui sont antérieures à la pandémie.
Joe Biden va maintenant parcourir le pays à partir de la semaine prochaine pour vanter la loi qui vise à apporter un soulagement face au COVID-19. Son administration a déjà baptisé cette tournée « Help is here », autrement dit, l'aide est arrivée.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
La crise humanitaire qui sévit au Yémen est largement considérée comme la pire au monde, avec 20 millions de personnes, dont des millions d'enfants, qui ont désespérément besoin d'aide. Les États-Unis se sont engagés à faire leur part, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken lors d'une récente conférence des donateurs. Je suis heureux d'annoncer une aide humanitaire supplémentaire de près de 191 millions de dollars de la part des États-Unis, ce qui porte notre financement pour l'exercice 2021 à plus de 350 millions de dollars. Au total, les États-Unis ont fourni plus de 3,4 milliards de dollars d'aide au peuple yéménite depuis le début de la crise il y a 6 ans. Ce financement aide les partenaires des États-Unis à fournir l'assistance nécessaire dont la nourriture, la protection, l'éducation, le logement, la santé, l'eau, l'assainissement, la prévention et le traitement de la malnutrition sévère. Il s'agira aussi de la remise en état des systèmes d'approvisionnement en eau, de la réparation des routes essentielles et du soutien pour aider les familles à gagner un revenu. En fin de compte, la seule façon de mettre fin à la crise humanitaire au Yémen, c'est de mettre fin à la guerre. C'est pourquoi les États-Unis redynamisent leurs efforts diplomatiques pour amener la paix, a déclaré le secrétaire Blinken. Nous sommes déterminés à mettre le bien-être du peuple yéménite au premier, tout en continuant à faire pression sur les dirigeants d'Ansanrallah, également connus sous le nom de Houthis. Nous appelons les Houthis à cesser leurs attaques transfrontalières et leur offensive militaire qui prolonge cette guerre. Nous soutenons le processus dirigé par l'ONU et l'envoyé spécial de l'ONU, Martin Griffith, dans leur effort pour établir un cessez-le-feu, accroître l'accès humanitaire et reprendre les pourparlers de paix. L'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lander King, rapporte que les gouvernements de l'Arabie Saoudite et du Yémen sont déterminés à trouver une solution au conflit. Maintenant, les Houthis doivent faire preuve du même engagement. Les États-Unis appellent les Houthis à mettre fin à leur assaut continu contre Marib, une ville où vivent 1 million de personnes déplacées, et à prendre des mesures constructives en faveur de la paix. Nous espérons une reprise rapide des pourparlers de paix visant à mettre enfin fin à ce conflit, a déclaré le secrétaire Blinken. Le moment est maintenant d'exercer cette avancée et de créer un Yémen plus stable et prospère dont les citoyens pourront reconstruire leur vie et, enfin, avoir de l'espoir dans un avenir meilleur.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.